Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon mardi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. C'est Marianne Paquette au micro là pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Si vous avez très souvent mal au ventre, ballonnement, des gaz, il se pourrait que vous viviez avec un syndrome de l'intestin irritable. Je dis il se pourrait parce que ça touche quand même de 12 % à 15 % de la population. C'est beaucoup, notamment des femmes. On parle de 4 femmes sur 5. Pas 4 femmes sur 5 atteintes de ce syndrome, mais dans les personnes touchées par ces différents inconvénients, je dirais. Notamment qu'en plus, ce syndrome-là, il est difficile à traiter. Les causes sont également difficiles à identifier. Le régime FODMAP, ça pourrait être une solution pour ces personnes. Une tendance 2016 dans le domaine de l'alimentation à surveiller. Et ça tombe bien parce que la nutritionniste Cynthia Cuneo, elle est titulaire d'une maîtrise en sciences appliquées, cofondatrice de soscuisine.com également. Elle vient tout juste de sortir un bouquin à cet effet et on lui parlera en deuxième partie d'émission. Également, vous dire, et vous l'avez peut-être remarqué autour de vous, il y a un réel engouement autour de la course à pied ici au Québec. Et ce, depuis quelques années, tellement que l'Université du Québec à Montréal a décidé d'en faire un cours universitaire dédié au grand public. Ça a débuté récemment, hein, le 7 janvier dernier. Je parle aujourd'hui avec l'instigateur de ce cours, Christian Duval, lui professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM. Christian Duval, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Plaisir.
C'est tout juste à côté. Vous n'avez pas eu besoin de courir pour venir.
Non.
Vous êtes vous-même marathonien, Christian Duval, donc intéressant, j'imagine, de construire ce cours-là. Et ça vient, j'imagine, de ce constat-là de voir que tout le monde court, ou presque au Québec maintenant.
Oui, effectivement, on a un engouement. Dans les dernières années, on a vu une augmentation assez faramineuse du nombre d'inscriptions à différentes courses. Mais on parle pas juste des marathons, on parle des 5 km, 10 km, 21 km, etc., etc. Donc, il y a énormément de gens qui courent. Il y a plusieurs années, on voyait des gens courir, on leur passait des messages en disant « Où c'est que tu t'en vas comme ça? » Maintenant, on passe plus de commentaires parce que des coureurs, il y en a tout le temps. On peut pas voir un reportage à la télé sans qu'il y ait un coureur qui passe en arrière de la caméra ou en avant de la caméra. Donc, effectivement, il y a beaucoup de monde qui court. Et l'objectif du cours, c'est de leur donner et de donner l'information aux gens qui sont intéressés pour mieux courir, éviter les blessures, etc., etc.
Oui. Non seulement on ne passe plus de commentaires, mais ça suscite parfois un petit peu d'envie, de l'admiration, surtout l'hiver, là, en cette période, en plein mois de janvier. Il y a des gens qui courent malgré tout. Pourquoi ça suscite tant d'intérêt? Peut-être parce que c'est simple, peu d'équipement, peu dispendieux, ça demande que de chaussures, que des chaussures.
Oui, en fait, je pense que c'est de là vient l'engouement. La simplicité de la chose, tout le monde a une paire d'espadrilles qui traîne à quelque part dans le garde-robe et souvent, c'est des collègues, des amis qui disent « Bien, viens, on va aller courir un petit peu. » Moi, c'est comme ça que j'ai couru. Je suis allé voir courir ma femme au marathon de New York et là, je suis tombé en amour avec l'espèce d'ambiance. Une des choses que j'ai remarquées, c'est que les gens n'étaient pas là nécessairement pour voir courir les premiers coureurs qui arrivaient avec les Éthiopiens, etc. Le monde sur le trottoir, ça s'accumulait quand monsieur et madame tout le monde couraient. Là, ils étaient là pour encourager leurs amis. Et cette ambiance-là, je l'ai trouvée extraordinaire. Et autant on peut penser que c'est un sport individuel, autant il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le pratiquer en groupe.
Mm-hmm.
Donc ça fait partie de l'engouement.
Donc, vous l'avez dit, monsieur, madame, tout le monde, le cours, c'est pour ça qu'il a été construit pour ces gens-là, pour le grand public?
Effectivement. Le cours, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir donner, hein, le cours s'appelle « Les fondements de la course à pied », C'est pour donner des bases sur les phénomènes qui font qu'on est capable d'avancer, qu'on est capable de courir. Donc, la physiologie de l'exercice, la nutrition associée avec l'exercice, comment notre corps métabolise ou change les nutriments qu'on avale et les transforme en énergie pour faire avancer nos muscles. On va parler de d'autres phénomènes comme la thermorégulation. Donc, comment notre corps fait pour s'arranger pour qu'il ne surchauffe pas quand il fait chaud. Hein? Donc, on a tous des mécanismes internes qui sont responsables de ça. Et quand les gens le comprennent mieux, ben, ils s'habillent mieux, ouais. Ils ne font pas d'erreurs, ils s'hydratent mieux et ça l'empêche, ça rend l'activité plus agréable.
Ils mangent mieux aussi également. Oui. Il y a un aspect autour de la nutrition dans le cours.
Absolument. On parle de la nutrition durant l'entraînement régulier, mais aussi avant la compétition, pendant la compétition, etc., etc.
Est-ce qu'il y aurait, Christian, également un constat autour des blessures, de se dire « Ah, on a l'impression qu'il y a pas mal de monde qui se blesse en courant, on va créer un cours pour empêcher ça. »
C'est un des autres aspects qu'on travaille. On va parler de ce qu'on appelle la biomécanique de la course et comment on fait pour avancer. On met un pied devant l'autre, mais c'est plus complexe que ça. Si on le fait mal, si on est mal chaussé, si on ne court pas de la bonne façon et si on n'a pas de repos entre les courses, bien, on peut développer des blessures. Et ces blessures-là sont, la plupart du temps, évitables. Il faut faire la différence entre blessures et bobos. Hein?
Oui.
On a tous des petits bobos ici et là. Puis quand on court, on ne peut pas passer à côté. On a des petits bobos. Mais les blessures, ça, c'est quelque chose qui reste et que si on ne fait pas attention, peut dégénérer et là, nous empêcher de courir, ce qui n'est pas très bon.
C'est quoi les petits bobos les plus courants?
Ben, en fait, les petits bobos, ça va être des courbatures. Hein? Okay. C'est des courbatures musculaires, etc., etc. C'est rien de bien grave. Là, quand on parle de blessures, ben là, il y en a plusieurs. Hein? On peut parler de tendinite, on peut parler de périostite, des choses comme ça. Donc, des problèmes au niveau des articulations. Et souvent, ça vient d'une espèce de débalancement du corps. Les gens sont tous faits différents. Et il faut quand on sait qu'on a, exemple, les hanches plus larges, etc., bien, ça va mettre des tensions sur les genoux. Alors, il faut comprendre ça. Et à ce moment-là, bien, on peut se chausser pour éviter ces problèmes-là, pour que les problèmes dégénèrent, en fait.
Il y a combien de personnes dans vos cours, Christian?
En fait, le cours est bloqué à 50. Et donc, pour l'instant, on a un cours d'ouvert. C'est la première année qu'on le donne. Et l'année prochaine, on va probablement doubler la mise. Donc, on va faire là, présentement, le cours se donne 2 jours. La prochaine fois, il va y avoir aussi un cours de soir. Donc, ça va permettre aux gens, la population en général, de pouvoir s'inscrire en plus grand nombre. Mais j'en ai quand même à peu près la moitié de ma cohorte de jours qui viennent. Donc, j'ai des gens de tous les âges. Ce qui est plaisant pour un cours universitaire, parce qu'habituellement, bon, ils ont tous l'âge universitaire et puis ils sont là pour un cours bien précis.
Un peu imposé dans le cursus, là.
Exactement. Oui. Alors que là, tout le monde est là parce qu'ils sont intéressés au sujet. Et j'en ai de tous les styles. J'en ai qui ont déjà couru des marathons, mais j'en ai qui n'ont jamais couru, qui courent des...
Jamais du tout,
mais qui sont intéressés, ils veulent commencer. Et ils sont intéressés aussi à l'activité physique en général.
Donc, c'est un cours universitaire qui amène à également, pour certains, changer le mode de vie, améliorer les habitudes et intégrer une activité physique, finalement, et que ça peut être durable aussi dans la vie.
Oui, parce que tous les principes qu'on voit, les principes de base, ils sont applicables à la course à pied. Bien sûr, on les ajuste, on parle de course à pied, mais c'est applicable pour les gens qui font du vélo et tout autre sport. Les principes physiologiques sont les mêmes pour la dépense énergétique, la biomécanique, l'entraînement, la même chose. Hein?
Oui.
Comment on s'entraîne, comment on fait pour bien s'entraîner, pour se préparer pour une course. Et d'ailleurs, un des travaux que les étudiants auront à faire, ils devront préparer un plan d'entraînement pour une course spécifique qu'eux auront choisi. Ils devront justifier le type de course qu'ils veulent faire en fonction de leur capacité. Ils devront, après ça, justifier leur plan d'entraînement de façon à atteindre les objectifs qu'ils ont.
Je posais au départ cette question-là, Christian, à savoir le nombre d'étudiants dans le cours, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose aussi d'assez personnel, à savoir notre morphologie va dépendre peut-être de notre façon de courir, nos capacités également. Est-ce que vous avez le temps dans ce cours-là de dire, OK, toi, tu as tel genre de corps, alors peut-être qu'il est préférable pour toi de courir de cette façon-là?
En fait, on fait pas d'évaluation de la course chez les différentes personnes. Il va y avoir des sorties. Donc, à la fin du cours, on va faire des sorties pratiques. Et là, on va regarder des styles de course. Et là, on va dire, voici, quelqu'un qui fait de la pronation du pied devrait porter une chaussure qui va être un peu plus qui va supporter son pied mieux. Et cette personne-là, par contre, elle court plus neutre, donc elle peut porter une chaussure neutre. On va expliquer les différents souliers et on va expliquer les différentes morphologies, mais on n'entrera pas dans les détails pour chaque personne. Les gens vont prendre cette information-là, mm-hmm. et vont surtout, en fait, c'est un des objectifs les plus importants, être critique après envers ce qu'ils lisent. Et ce qu'on leur dit.
Ah, voilà. Oui, parce que un engouement, ça suscite ça. Beaucoup d'informations véhiculées sur plein de plateformes, notamment avec les médias sociaux aujourd'hui. Donc, et vous le devez le constater, beaucoup d'informations erronées.
Oui, c'est un problème. Et souvent, les gens vont s'engager dans des groupes de courses avec des entraîneurs, etc. Mon objectif, c'est pas de mettre sur la sellette l'entraîneur. Je veux juste que l'étudiant ou l'étudiante ait la capacité de dire « Ah, ça, je suis pas convaincu de ça, je vais faire un peu plus de recherche. » Et je ne prendrai pas l'information comme étant une vérité pure. Et des théories sur comment notre corps fonctionne quand on court, les meilleures méthodes d'entraînement, comment améliorer ses performances, il y en a plein. Hein? Les plans d'entraînement, il y en a des centaines sur Internet, mais ils ne sont jamais personnalisés.
Ouais, voilà.
Et ça, c'est une des questions qu'on va répondre. C'est comment prendre ces plans-là, être critique envers le plan et comment le personnaliser pour soi-même, avec ses propres capacités. Mm. Ça, c'est la chose la plus importante.
La grande question maintenant, celle qui me brûle les lèvres, mais je me doute un peu de votre réponse. Est-ce que tout le monde peut courir, Christian Duval?
En fait, je pense peut-être que la réponse va vous surprendre. C'est pas tout le monde qui peut courir.
Ben oui, ça me surprend.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut faire de l'activité physique. Mais souvent, il va y avoir des limitations morphologiques ou tout simplement de poids qui va faire que la personne ne devrait pas commencer par la course à pied. Elle devrait probablement commencer par une autre activité, mm-hmm. diminuer sa charge pondérale, hein, habituer son corps à faire une activité physique, que son métabolisme augmente, sa respiration augmente, sa fréquence cardiaque. Et à un moment donné, quand cette personne-là aura atteint un certain seuil d'activité physique et de forme physique, là, il pourra transférer ou elle pourra transférer à la course à pied.
Mm-hmm.
Donc, je pense que tout le monde doit y aller avec ses propres capacités et essayez-le. Mais si vous développez des problèmes importants, souvent les gens vont parler des genoux, mais il n'y a pas juste les genoux. Les genoux, c'est une structure qui est relativement solide. On peut parler plutôt des pieds aussi, les hanches, des choses comme ça. Et si on est bien équipé, ça devrait réduire les problèmes, mais il y a des gens qui vont développer ces problèmes-là. Donc, ils sont mieux de commencer par autre chose, où il y a moins d'impact, et une fois que ça c'est fait, ben là, à ce moment-là, on peut essayer la course à pied et là, tranquillement, transitionner vers la course à pied.
Mmh. Oui, assez étonnant. J'apprécie cette réponse honnête, Christian Duval. Maintenant, pourquoi tant d'engouement? Probablement parce que beaucoup de bienfaits.
Oui. La course à pied, comme beaucoup d'activités physiques d'ailleurs, un des bienfaits, c'est tout simplement d'améliorer notre système cardiovasculaire. Hein? Si on fait de l'exercice, de l'activité physique, on va mieux absorber les nutriments, nos muscles vont se développer, et si on se développe, on augmente notre capacité à brûler de l'énergie. Et si on brûle de l'énergie, on brûle des calories. Et à ce moment-là, on a une diminution de la charge pondérale, du poids, et on a une meilleure capacité. Notre pression artérielle va diminuer. Et on a remarqué que surtout dans la course à pied, il y avait des adaptations physiologiques qui faisaient que les gens avaient, à long terme, des métabolismes qui étaient un peu plus rapides et qui brûlaient, même au repos, là, sur le sofa, brûlaient un peu plus de calories. Et on était mieux équipés pour se défendre contre les problèmes de vieillissement, là, c'est-à-dire l'adurcissement des artères, l'artériosclérose, les dépôts graisseux à l'intérieur des artères, l'artériosclérose, l'augmentation de la pression artérielle, etc., etc.
On explique comment les gens qui voient leur course à pied, cette habitude-là dans leur vie, presque comme une drogue. Parce que j'entends ça souvent autour de moi, j'en ai besoin. Est-ce que la course à pied amène à sécréter une hormone qui amène la dépendance à la course à pied?
Oui, en fait, la course à pied est reconnue comme étant un sécréteur d'endorphines. Hein? Les endorphines, c'est une espèce d'hormone qui nous tranquillise, qui nous prépare, en fait, qui nous relaxe. Et ça, l'avantage de la course à pied, c'est que tu n'as pas besoin de courir très longtemps pour avoir ton rush d'endorphine. Si tu fais du vélo, par contre, il va falloir que tu aies fait des sorties beaucoup plus longues pour obtenir le même résultat au niveau de la relâche des endorphines. Donc, les gens deviennent un peu addicts de ce high-là. Il n'y a pas juste les endorphines, il y a aussi la dopamine. La dopamine, c'est notre neurotransmetteur de la récompense. Dans notre cerveau et la course à pied amène une relâche de dopamine aussi et on est addict aussi de cette relâche de dopamine-là. Donc, c'est tout à fait normal que les gens aiment aller courir et aussi un des avantages, c'est que ça augmente beaucoup la circulation sanguine au niveau du cerveau. Et les gens vont souvent dire, moi, je vais courir pour régler mes problèmes. Pourquoi? Parce que l'augmentation de l'afflux sanguin au niveau du cerveau dû à l'augmentation de la pression sanguine et de l'activité physique, l'augmentation de la fréquence cardiaque, va faire qu'il va y avoir une meilleure circulation. Et là, nos neurones sont bien nourris. Et là, on dirait que les idées roulent beaucoup plus vite dans notre tête. Et là, on règle des choses. Hein? Donc ça, c'est une autre chose que les gens aiment, c'est de s'évader. Et ils vont souvent revenir avec des solutions à des problèmes qu'ils ont eus durant la journée. C'est une autre chose que les gens adorent.
On peut courir tous les jours, pas de problème.
En fait, il faut faire attention, ça dépend des distances. Quelqu'un qui se lève le matin, il va courir 4 ou 5 kilomètres avant de commencer sa journée, c'est excellent. Ça lance le système, notre cerveau est irrigué et là, on est prêt à commencer notre journée, on est beaucoup plus éveillé. Quand les distances augmentent, par contre, il faut prendre des périodes de repos parce que faut comprendre que le repos fait partie de l'entraînement.
Ah ouais.
S'il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'adaptation physiologique. Et s'il n'y a pas d'adaptation physiologique, il n'y a pas d'amélioration. Hein? Et il y a des gens même qui vont courir trop. Et là, à un moment donné, ils vont s'apercevoir qu'ils sont de plus en plus fatigués. Leur rythme cardiaque augmente et là, leur performance diminue. Ça s'appelle en anglais du overtraining. Ils sont surentraînés parce qu'ils n'ont pas pris le temps de mettre des périodes de repos pour laisser leur corps se réparer. C'est cette réparation-là qui fait que la prochaine fois qu'on va faire une sortie, on va améliorer notre performance.
J'aime bien la partie du repos dans l'entraînement, moi. Christian Duval, de vous voir parler de la course à pied, on voit votre amour pour cette activité-là. Donc, j'imagine qu'en effet, oui, ça stimule plein de belles choses dans le cerveau. Bon, évidemment, le cours est plein maintenant. Il a débuté le 7 janvier. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles sessions?
Oui, les prochaines sessions vont être en janvier l'année prochaine. Et là, comme je vous ai dit, on va avoir un cours le soir et un cours le jour. Donc, on va
probablement... Deux cohortes, alors.
Oui, on va probablement avoir deux cohortes. Et on donne le cours en janvier pour une raison, c'est qu'on veut préparer les gens à la prochaine saison. Donc, ils vont finir au mois d'avril et là, ils auront leur plan d'entraînement et ils pourront séduire une course à l'automne et ils auront l'été pour mettre en application leur plan d'entraînement. Et à ce moment-là, ça leur permet de finaliser un peu ce qu'ils auront appris.
Et de le concrétiser également.
Oui, effectivement.
Christian Duval, vous êtes professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM. Merci beaucoup.
Plaisir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Cindia Cuneo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences appliquées, également cofondatrice de soscuisine.com et vous venez tout juste de sortir un bouquin, La solution FODMAP, pour en finir avec les mots de vendre. Bon, peut-être une solution au syndrome de l'intestin irritable. FODMAP, c'est d'abord l'acronyme d'une expression qui est un peu compliquée. Je vais vous laisser nous l'expliquer.
Oui, d'accord. C'est un acronyme en anglais. C'est FODMAP et pas FODMAP, comme beaucoup de gens disent. Mm-hmm. Et puis, c'est des initiales. Le F, ça veut dire fermenter cible. Le O, le D, le M et le P, c'est les initiales des sucres, des glucides courts, des oligos, mm-hmm. des di, des monosaccharides et polyols. Et le A, c'est E en anglais, donc FODMAP.
Et bon, ce sont des sucres. Je pense que c'est ça qui est important de retenir. Où on les retrouve, ces sucres-là?
Un peu partout, malheureusement. C'est des sucres naturels. Donc, on les trouve dans les fruits, dans les légumes et dans les céréales.
OK. Est-ce que tous ces sucres-là, c'est-à-dire tous ces aliments-là, peuvent avoir un impact sur notre santé gastro-intestinale?
Oui. Pour les gens qui sont sensibles, en effet, ils peuvent avoir tous un impact ou seulement une partie entre eux, puis c'est un effet cumulatif. Donc, ça rend des choses très compliquées à comprendre qu'est-ce qui est le problème pour moi. C'est pour ça que jusqu'à il n'y a pas longtemps, les gens qui souffraient d'intestin irritable, on leur disait que c'était dans leur tête parce que...
Ouais.
C'est ça. Des fois, quand ils étaient de bonne humeur, ils pouvaient manger un peu de tout. Puis des fois, quand ils sont pas de bonne humeur, alors même les choses les meilleures ne passent pas. Donc, c'est assez complexe.
Mais
heureusement qu'il y a une solution maintenant.
Oui, il y a une solution, mais parce que aussi, j'imagine, c'est l'accumulation. Si on mange un petit peu d'un type de sucre, quelquefois, pas très souvent, que ça devienne une exception, c'est une chose. Si on en consomme tous les jours, c'en est une autre. C'est l'accumulation de ces sucres-là.
Mais on en consomme tous les jours,
ouais.
Parce que c'est des sucres qui sont dans le pain, dans l'ail, dans l'oignon, dans la pomme, dans le miel.
Ouais.
Ils se retrouvent partout, là.
Oui. Comment on peut faire pour savoir si nous, on est irrité par les FODMAP?
Alors, c'est une bonne question. En général, disons que les gens qui souffrent de ballonnement, gaz, constipation, diarrhée, ils en parlent avec leur médecin. Puis le médecin, si c'est assez grave, les envoie chez un gastroentérologue et on fait un diagnose par exclusion. Donc, il faut exclure qu'on n'a pas quelque chose de plus grave parce que là, on parle d'un syndrome de l'intestin irritable, on ne parle pas d'une maladie. On ne meurt pas de ça, on est juste très malheureux.
Oui. C'est ça, c'est désagréable.
Alors, oui, mais il faut exclure qu'on ait la maladie cœliaque, par exemple, ou cancer ou autre chose. Bon, quand on a exclu tout ça, là, on le dit, tu souffres d'intestin irritable. Alors, c'est le moment d'essayer. Mais beaucoup de monde n'en parle même pas avec leur médecin. C'est pour ça que c'est même difficile de donner des statistiques de combien de gens souffrent de ça, parce que ce n'est pas très sexy, parce que justement, c'est bon, on est ballonné, mais on meurt pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui, on estime environ entre le 10 et le 20% de la population qui souffrent de ça.
Ouais, c'est beaucoup. Lorsque l'on parle du régime FODMAP, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Comment on peut appliquer cette méthode-là à notre quotidien?
Alors, il faut savoir qu'il y a des aliments qui sont pratiquement très, très, très faibles en FODMAP. Par exemple, toutes les viandes, les poissons, les œufs, on peut manger, pourvu que dans la cuisson, ils n'ont pas été associés à de l'ail et de l'oignon. Parce qu'en général, on utilise toujours de l'ail, de l'oignon, des poireaux, des échalotes. C'est toute la même chose pour assaisonner. Donc, on essaye d'avoir pendant une période de entre 2 et 4 semaines vraiment exclure les FODMAP. Donc, on mange faible en FODMAP. Il y a des aliments absolument à éliminer complètement. Comme je disais, les pêches, les abricots, les mûres, tout ça, il faut oublier. Et donc, on donne une chance à notre intestin de se reposer, d'être en forme, d'être bien, de ne plus avoir de mal. Et à ce moment-là, on réintroduit, mais un fondement à la fois pour savoir à quoi on est vraiment sensible.
Ah, voilà.
Parce que c'est quand même des bons sucres. C'est très bon de manger des pommes, des poires et du miel, par exemple. Sauf que pour les gens qui en souffrent, il ne faut pas exagérer. Donc, il faut savoir lesquels. Et puis, en général, on découvre que peut-être c'est juste deux ou trois fondements qui sont en problème, pas tous.
Donc, on peut les réintégrer après cette pause.
Oui, c'est fortement recommandé de les réintégrer parce que comme ça, bon, d'abord, on mange plus varié, donc on est plus heureux. Puis, si on aime beaucoup les pommes, pourquoi se priver de pommes pour le reste de notre vie si on n'a pas besoin de le faire? Et puis, de deux aussi, on sait que, étant donné que c'est des vitamines différentes, etc., on peut avoir peut-être un impact si on élimine ça pour le futur de notre santé. Donc, c'est toujours bien de continuer à avoir l'alimentation la plus variée possible.
Et c'est un régime qui fonctionnerait à 75 %. C'est assez élevé comme taux de réussite,
oui,
là.
Oui. Ça vient d'une étude scientifique d'un gastroentérologue américain, Bill Chey, l'année dernière au mois de mars. Il a compilé tous les articles qui ont été écrits. Ça fait quand même plus de 10 ans que la méthode existe. Et il est arrivé avec ce chiffre-là qui a convaincu l'Association des gastroentérologues aux États-Unis et aussi au Canada d'adopter cette technique.
Mm-hmm. Vous savez, Tinsia, votre livre sort vraiment à point nommé parce que c'est réellement une tendance 2016, les FODMAP. On n'en parlait pas tant que ça avant.
Mais si on en parlait dans le monde anglo-saxon, si vous allez sur Google et vous écrivez FODMAP, vous allez voir qu'il y a plein d'articles. Mais effectivement, en français, il n'y avait rien. Donc aussi, le besoin, c'est pour ça qu'on a décidé. Nous, on offre habituellement des menus par Internet, mais on a compris qu'il y avait un besoin d'abord pour expliquer, parce que ce n'est pas simplement sur une page web d'expliquer la méthode. Donc, dans le livre, il y a une quarantaine de pages sur ça. Puis, il y a 100 recettes, il y a des menus, justement, pour donner les gens la possibilité de le faire soi-même. Et les professionnels de la santé nous en remercient parce qu'effectivement, de dire aux patients, tu dois suivre la méthode, mais il n'y a personne qui te dit comment
le
faire.
Il n'y a pas d'outils. Oui, oui. Ça devient un casse-tête et en plus, les recettes semblent alléchantes, extrêmement bien décrites, autant pour le déjeuner, souper, les collations. Cynthia Cuneo, merci beaucoup à vous, votre équipe de SOS Cuisine.
Merci à vous.
Je rappelle, ce livre est publié aux éditions du journal La Solution FODMAP pour en finir avec les maux de ventre. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bye bye. Merci Jean-Sébastien, La Liberté à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On vous redonne rendez-vous demain, 14h. On parle d'équitation thérapeutique demain. Soyez-y, portez-vous bien d'ici là. Bye bye.